C'est assez difficile pour nous parce que on doit marier la qualité des sols et puis en même temps produire des pommes de terre de qualité. On ne dit pas qu'en produisant la pomme de terre, on détruit les sols. Je pense que c'est faux de le dire. Simplement, il faut faire attention à comment on la cultive et puis il ne faut pas venir trop régulièrement. Il faut respecter le sol, il faut regarder les bons moments pour cultiver la pomme de terre.
Nos sols sont-ils en péril?
Laurence Di Félix, Véronique Marty.
Dans quel état sont nos sols? À force de les labourer, de les gorger d'engrais et de produits phytosanitaires, de leur faire supporter des machines de plus en plus lourdes, ils s'épuisent. L'urbanisation aussi est un danger. Elle grignote les terres, les rend imperméables. Jusqu'où peut-on solliciter les sols? Et avec quel risque? En Suisse, on manque de données. Il n'existe pas de cartographie précise et généralisée du sol. Est-il donc le parent pauvre des préoccupations écologiques? Toute cette semaine dans Vacarme, nous irons au ras des pâquerettes pour comprendre de quoi est fait ce que nous foulons aux pieds. Qu'est-ce que l'humus? Comment se fabrique la matière organique? Peut-on s'en passer pour faire pousser nos légumes? Comment cultiver en prenant soin de cette ressource qui se dégrade, le sol? Premier épisode aujourd'hui et un exemple avec la culture de la pomme de terre. Sa culture suppose un travail intensif du terrain, même en production biologique, car le renoncement à l'usage de pesticides induit davantage de passages sur les champs pour éliminer les mauvaises herbes. Et le sol en souffre. Alors, la pomme de terre, une ennemie du sol? Rendez-vous tout d'abord à Molondin, au-dessus d'Yverdon, avec Stéphane Frankhauser, président de l'entreprise Greenpack, qui lave, trie, conditionne ces tubercules pour les grands distributeurs. Car une des clés se trouve sans doute dans nos habitudes de consommation. Voici une histoire de patates. C'est un reportage de Catherine Erard. Il est réalisé par Jean-Daniel Mottet.
Nous nous trouvons dans la partie après lavage, c'est-à-dire que la pomme de terre, elle est calibrée. Elle est sélectionnée, elle est lavée, mais elle reste toujours brute jusqu'à ce passage. C'est-à-dire que nous enlevons pour l'instant, jusqu'à cette étape, aucun déchet. Maintenant, deux personnes ici sont présentes sur la table de tri pour enlever, bien évidemment, tous les déchets visibles à l'œil.
Est-ce que je peux m'adresser à la personne qui est en train de trier?
Alors, tout à fait.
Comment vous faites? Qu'est-ce que vous enlevez?
On enlève les taches de pression, les coupées, les vertes, les déformées. Et la gale argentée.
Par exemple, celle-là, voilà, elle a une marque dessus.
Celle-là, elle a aussi une petite marque. Encore des taches de pression.
C'est
vertes, ouais. Pourriture aussi, on a un peu, pas trop, mais un peu. Des molles aussi. Et ça, c'est pour les animaux.
Ça, c'est pour les animaux. Mais finalement, moi, je me dis, certaines de celles-là, je les mangerais bien, non?
Oui, oui. On arrive à manger. On prend deux fois, on prend ici pour manger, oui, bien sûr. Ouais.
Alors, maintenant, si on va au bout de la chaîne, une fois les pommes de terre triées, elles passent dans une machine où elles sont mises dans des sacs. Ah, si je me tourne, je vois des paquets qu'on connaît bien, qu'on va au supermarché, que ce soit de la Coop ou de la Migros, on les voit.
Des sachets avec ma région.
On a vu passablement de pommes de terre là qui sont triées, qui sont enlevées. C'est quel pourcentage par rapport à ce que vous fournit un agriculteur à l'automne?
Alors c'est vraiment très variable en fonction de la qualité du produit, des pommes de terre brutes récoltées. Mais je dirais qu'en moyenne, sur la moyenne annuelle, sur une récolte de pommes de terre, on enlève environ entre 8 et 14% de matière qui n'est pas conforme selon les prescriptions de la distribution.
Là, on est dans la filière, c'est pas des pommes de terre bio. Si on est dans la filière bio, c'est pareil, parce que vous avez aussi des locaux pour le bio. Hein.
Alors, c'est un peu l'ironie du sort. D'un côté, on produit des produits naturels qui sont pas issus d'une chaîne de fabrication industrielle. Bien évidemment, la pomme de terre biologique devrait normalement avoir des différences au niveau de son appréciation, mais vu son prix élevé, le client exige une qualité plus ou moins similaire à la culture conventionnelle.
On peut aller voir la chaîne du bio ?
Tout à fait.
Alors, là on entre dans le secteur bio, hein, c'est ça.
Ah voilà, là on voit une production de Cheyenne en production biologique. C'est un produit qui est fait par notre exploitation, donc Biola SARL, dont le gérant M. André Galanda. C'est un produit qui a été mis en culture et récolté l'année passée. On voit en production biologique, ce qui est très difficile, c'est que vu le prix et la cherté du produit, nous devons enlever tout défaut visible au niveau de la peau. Là, on voit de la gale argentée, par exemple. On peut tolérer un maximum de 20%. En dessus, le prix nous demande de les évacuer.
La gale argentée, ce qu'on voit, en fait, c'est une petite tache sur la pomme de terre.
Donc, en fait, c'est la couleur, la pigmentation de la peau de la pomme de terre qui change en fonction du champignon qui est dessus. C'est absolument pas nocif. Simplement qu'avec le stockage et l'humidité, ça se propage. Et puis, en fin de compte, c'est l'équivalent d'un coup de soleil. On a habitué, quand je dis « on », tout le monde est responsable, on a habitué le consommateur à acheter un produit avec les yeux, c'est-à-dire qu'on prend la pomme de terre, on la regarde, si elle correspond, voilà. Ensuite, on a des critères qualitatifs, mais ils sont secondaires. Donc, en clair, ça veut dire qu'en fonction des qualités de réception des pommes de terre, les pourcentages de tare ou de déchets peuvent fluctuer de 10 à 30, voire 35 % de matières premières, ce qui est énorme.
L'agriculteur qui produit ses pommes de terre, il est payé pour toutes les pommes de terre ou les pommes de terre qui sont jetées, il n'est pas payé ?
Non, le système fonctionne très simplement. Le producteur est uniquement payé et régularisé sur la pomme de terre nette commercialisée. En français, ça veut dire très clairement que s'il a un contrat de 40 tonnes et puis que nous avons 10% de déchets, c'est 40 tonnes moins 10% et là-dessus, il est rémunéré. Moins les charges de conditionnement, de triage, etc.
André Galanda, tout à l'heure, on était chez Green Park, à Molandin, et je crois qu'on a vu vos pommes de terre qui étaient emballées. On a vu aussi le tri assez sévère qui était fait. Qu'est-ce que ça implique pour vous, cultivateurs de pommes de terre, ce tri ?
Eh ben, effectivement, c'est assez difficile pour nous parce que on doit marier la qualité des sols et puis en même temps produire des pommes de terre de qualité. Et puis, justement, parfois, c'est un petit peu antagoniste. Parce que pour produire des pommes de terre avec peu de taches, donc de la gale commune comme on l'appelle, ou du rhizoctone ou différentes maladies, on doit avoir un sol parfois qui est pauvre en matière organique.
Donc, mais nous, si on mange aussi, parce qu'ici il y a la gale argentée sur une pomme de terre, c'est grave ou bien comme consommateur, si on pèle, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben pas du tout justement, c'est ça qu'on a un peu révolté nous en tant que producteurs. Quand on voit tous les déchets qu'on met loin, parce qu'en fin de compte, une pomme de terre qui a une tache, il suffit de la peler et puis elle a le même goût qu'une autre. Il n'y a absolument aucune différence au niveau du goût. Simplement, nous, il y a un gaspillage monstrueux au niveau de la production, rien qu'à cause de cette qualité de peau qu'on veut avoir dans les magasins, en fin de compte. Si on acceptait d'avoir un peu plus de défauts, eh ben, on diminuerait drastiquement le gaspillage alimentaire. Et puis aussi, on pourrait simplifier un peu nos techniques culturales et préserver nos sols un peu mieux.
Alors justement, vous-même, vous étiez en agriculture conventionnelle, puis vous avez choisi de changer. Qu'est-ce qui vous a préoccupé par rapport à vos sols ?
Je me suis rendu compte qu'au fil des années, la qualité de mes sols diminuait assez fortement. Ben, la raison de cela, c'est simplement l'intensivité qu'on mettait sur nos sols. On avait des cultures très intensives, légumes, betteraves, sucrières, en plus de la production de pommes de terre. Et cela appauvrissait passablement nos sols.
Comment vous en êtes rendu compte ?
Bah, lorsqu'il y a de fortes intempéries, j'ai quand même de gros problèmes d'érosion.
Et ça veut dire que le sol, il n'est pas assez structuré, dense pour tenir.
Exactement, il
part avec l'eau.
Exactement, c'est ça, ouais. Il n'a plus de structure, comme on aime le voir. Et puis ça, c'est vraiment une conséquence directe avec notre intensivité de production. Pour revenir à un sol de bonne qualité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir des années et des années de techniques culturelles préservant le sol pour y arriver. Et puis, il suffit d'une année où on fait des choses mauvaise pour tout recommencer. C'est pas évident à gérer, quoi. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette qualité de sol? Alors, il y avait plusieurs variantes. On pouvait se dire, on part en agriculture de conservation, mais cela impliquait simplement
agriculture de conservation, ça veut dire aucun labour.
Voilà, exactement. L'agriculture de conservation, ça implique d'abandonner le labour, ça implique de travailler le minimum le sol, et puis de favoriser cette dynamique de sol. Et puis on avait quand même tout ce marché lié à la pomme de terre qu'on voulait conserver, donc on pouvait pas partir dans cette agriculture de conservation. C'est pas compatible avec la production de pommes de terre.
C'est pas possible de produire des pommes de terre en agriculture de conservation. C'est quoi le problème?
Le problème, la production de pommes de terre, c'est on doit travailler le sol pour la mettre dans la terre. On doit affiner la terre. On doit réchauffer la terre au printemps. Enfin voilà, on doit pas simplement travailler le sol pour pouvoir implanter la pomme de terre, pour qu'elle puisse évoluer dans des bonnes conditions pédoclimatiques. Et la pomme de terre n'aime pas forcément la matière organique trop fraîche, surtout la matière organique fraîche qui est en décomposition. Donc si on apporte du compost régulièrement, et puis là on plante des pommes de terre juste après avoir mis du compost, on a de fortes chances d'avoir de la gale commune. Et puis après, cette pomme de terre n'est pas vendable en l'état, quoi. Donc voilà, je disais, par rapport à cette agriculture de conservation, on a décidé de ne pas partir là-dedans, mais de s'orienter plus en production biologique. Et donc, de diminuer l'intensivité sur nos sols. En fin de compte, on a décidé, on garde la pomme de terre comme culture de base, mais dans la rotation, on met des cultures beaucoup plus extensives. Et puis, comme ça, ça nous permet de faire un compromis en se disant, on arrive à améliorer nos sols pendant 5 ans durant la rotation, et puis tous les 5 ans, on vient avec de la pomme de terre. Et là, on produit dans la pomme de terre. On ne dit pas qu'en produisant de la pomme de terre, on détruit les sols. Je pense que c'est faux de le dire. Simplement, il faut faire attention à comment on la cultive, et puis il faut pas venir trop régulièrement, il faut respecter le sol, il faut regarder les bons moments pour cultiver la pomme de terre.
André Galanda, quand vous plantez de la pomme de terre, depuis le moment où vous préparez le sol, où vous plantez jusqu'à au moment où vous récoltez, vous devez faire beaucoup de passages. C'est aussi une culture qui demande ça.
Oui, alors la pomme de terre, c'est une culture intensive, même que ce soit en production biologique ou conventionnelle. Je dirais même en production biologique, c'est presque plus intensif qu'en production conventionnelle.
Pourquoi ?
Si on part du début, on doit préparer le sol, ça c'est équivalent à la production conventionnelle. Après, on plante, c'est équivalent. Mais par la suite, on n'a pas le droit à des produits chimiques de désherbage, etc. Et puis, nous, la seule façon de combattre les mauvaises herbes, c'est de sarcler, de passer avec les tracteurs plusieurs fois par saison. Donc, on plante, après on vient avec une sarcleuse, on enlève les mauvaises herbes, on passe 3-4 fois durant la saison. Et puis,
alors que si vous aviez mis un herbicide, vous ne seriez pas obligé.
Voilà, si on avait mis un herbicide, on ne serait plus obligé de passer. Il y en a beaucoup qui le font en production conventionnelle. On plante un système all-in-one, c'est-à-dire c'est vraiment on travaille le sol au même temps qu'on plante la pomme de terre. On met un herbicide et puis le travail du sol est fini jusqu'à la récolte. Donc là, à ce niveau-là, on préserve quand même mieux le sol que si on devait aller sarcler comme nous on le fait en production biologique régulièrement. Et puis parfois, on a une plage météo assez courte et on doit des fois un peu forcer, mais on essaie de faire.
Ça veut dire aller sur des sols qui sont un peu humides et plus étassés.
Voilà, ouais. Ça peut arriver. On essaie de faire attention, mais voilà, c'est pour ça que c'est pas évident. C'est quand même un gros challenge de faire la pomme de terre en production biologique.
Alors, on entre ici dans votre hangar, André Galanda. On va voir les machines que vous utilisez. On va éteindre la radio.
Là, vous êtes devant la planteuse qu'on est en train de réviser, de préparer pour la saison, parce qu'on va bientôt commencer, enfin, dès que le temps le permettra. Donc là, on a du fait qu'on a des parcelles qui sont pas mal en pente, on a dû adapter une machine. Et qui,
on vient un peu devant, on voit les grandes roues là. Hein.
Ouais, et puis on a dû mettre un patin là pour la tenir, parce qu'autrement elle part de travers. Ouais.
Donc ça c'est la all-in-one, c'est où alors? C'est quoi?
Alors c'est la ça fameuse... l'all-in-one.
C'est ça la all-in-one. Bonjour. C'est les mécanos, c'est ça?
C'est ça. Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Catherine Erard, Berthès.
Je passe pour la vieille ferraille. C'est moi qui avais passé l'année passée.
Pour ramasser la ferraille.
Ouais, m'avait dit de repasser à l'occasion. J'ai vu qu'il y en avait un peu.
Ouais, alors c'est bon, comme ça, ça nous fait de la place.
Ouais, alors c'est bon.
Ok.
Bah, merci bien.
Rien. Ouais.
Là, l'all-in-one, quand on parle d'all-in-one, c'est une notation en un passage. Donc on a la herse, donc ça c'est une machine qui ameublit le sol, qui rend la terre plus fine pour avoir moins de mottes, moins de problèmes à l'arrachage. Donc on a la herse et puis on croche directement la planteuse sur la herse. Donc on a un passage, on ameublit la terre et on plante la pomme de terre. Quoi. Donc ça permet de diminuer d'un passage lors de la plantation.
On a trouvé une qui a un trou pour vous montrer un petit peu les dégâts des ravageurs aussi. Voilà, parce que notre souci aussi dans cette région, c'est d'avoir un peu des problèmes de verfil de fer.
Parce que, Joël Terrain, ici on est dans la Broye. Hein.
On est dans la Broye, oui, à Grangemarnon. Et puis, c'est clair que pour la qualité des pommes de terre, on a tout un des petits soucis. Voilà encore un autre. Là, on a des dégâts justement d'un ravageur.
Alors on voit, hein, y a des parties qui sont plus sombres et on voit des trous hein, dans la pomme de terre.
Voilà, exactement. Alors ce qui est un petit peu délicat, c'est vrai que ils ont un tout petit trou en surface, ce qui fait que quelque part, vous le voyez à peine.
Ouais, mais je l'aurais pas repéré, hein, cette pomme de terre.
C'est un peu difficile justement à l'arrachage s'il y a encore un peu de terre sur la pomme de terre. Et puis par contre, à l'intérieur, on voit qu'il a créé sa petite maison, puis s'est mis bien à l'aise. Et puis là, c'est vrai que quand on partage la pomme de terre en deux, c'est pas très esthétique. Et puis là, on comprend un petit peu les critères. Après, le problème, c'est qu'on a un maximum qui est toléré. C'est 9% de verfil de fer sur un lot. Donc, à la taxation, si vous dépassez ces 9%, eh bien, votre lot, il est refusé. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a 91% qui fonctionne bien. Mais voilà.
Tout le lot sera jeté,
oui.
Comment on fait pour lutter contre le verfil de fer?
Jusqu'à cette année, on avait encore la possibilité d'avoir des intercultures avec une semence qui était traitée à l'insecticide, ce qui permettait d'attirer le ver et puis de le détruire. On mettait ça après moisson, au début août, et puis là, c'était de l'avoine qui était traitée avec un insecticide. Maintenant, avec ces restrictions pour la protection des abeilles, etc., ça vient interdit, cette matière active. Donc, la meilleure lutte, et puis c'est peut-être la plus... On revient en fait à des vieilles méthodes, c'est de travailler le sol. Donc si vous faites ça en été après moisson, faire un déchaumage, puis un deuxième travail du sol, et puis après de mettre en place une interculture standard qui n'est pas traitée, eh bien vous avez aussi une lutte qui est plus ou moins efficace. Quoi.
Après, travailler le sol, ça veut dire un peu labourer, le retourner?
Alors c'est déchaumer, ouais, le retourner, passer des dents. Il n'y a pas besoin d'aller très profond, mais c'est surtout pouvoir remonter un petit peu ces larves ou ces œufs qui seraient présents. Et puis là, ils ne vont pas supporter s'il y a une période de sec et puis qu'ils sont ramenés en surface. Ben, on aura une lutte indirecte contre ces ravageurs.
Mais ça veut dire que si on retourne le sol, bon, ça atteint un peu l'humus aussi.
Alors, voilà, c'est une vieille méthode. Après, il y a ces contradictions. Donc, on essaie aussi de maintenir de l'humus dans le sol. Et puis, si on le brasse trop, bien, quelque part, on aère le sol. Donc, on accélère la minéralisation. Et puis, on a le taux d'humus qui diminue.
Est-ce qu'on peut aller voir du côté d'un de vos champs, là?
Oui, on va aller voir ça. Alors, ça va. On va prendre la voiture, mais...
On s'est déplacé, Joël Terrain, ici on est devant un champ où vous allez prochainement planter des pommes de terre. Si on regarde un peu plus près ce sol, alors on va un peu se baisser, on voit qu'il y a des petits grains de sable, c'est juste?
Alors c'est juste, hein. Bon, on voit que là il est bien aéré, on voit que l'effet du gel a quand même fait un petit peu son effet en surface. On n'a pas eu un hiver très rigoureux, mais on a quand même eu des gelées de matinale, hein, jusqu'à moins 5 quelques fois. Et puis comme on n'a pas eu une couverture avec de la neige, donc ça a permis un petit peu au terrain de geler, faire une bonne structure. Alors c'est clair que là il s'effrite déjà. C'est clair que c'est une texture qui est idéale parce qu'on n'arrivera jamais à reproduire l'effet du gel mécaniquement.
Vous étiez, Joël Terrain, il y a quelques années, vous étiez producteur IP, hein, donc la petite coccinelle. Vous avez choisi finalement de quitter ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, avant on était assez convaincus. Bah, je pense que c'est toujours une bonne chose de faire un label. Après, où j'ai été un petit peu déçu, c'est qu'on avait fait plusieurs propositions parce que la méthode était sans herbicide. Ça fonctionnait relativement bien, sauf sur le dessus de la butte. Et puis, on voulait faire un petit peu des traitements partiels, ça avait été refusé au niveau d'IP Suisse.
Vous vouliez juste traiter le dessus de votre butte de pommes de terre,
voilà,
c'est ça?
Voilà, plutôt qu'on soit à zéro à herbicide, on aurait été à 80% de réduction, ce qui n'a pas été accepté à l'époque. Et puis après, c'était plutôt un petit peu aussi le jeu des grands distributeurs qui respectaient pas forcément leurs engagements en fonction des quantités qui avaient été planifiées l'été d'avant. Voilà, mais après ça,
c'est-à-dire?
Alors, ils voulaient des contrats pour une certaine quantité par variété, et puis tout d'un coup, à Noël, ils décidaient d'arrêter de vendre l'IP suisse en parallèle de la traditionnelle. Donc, automatiquement, il y avait une quantité qui était vendue en traditionnelle, même qu'elles avaient été produites sous label.
Donc, vous aviez produit sous label, c'était vendu en traditionnel, et vous étiez payé en traditionnel?
Alors, voilà, exactement. Si ça dépassait la quantité.
Cet idéal auquel on aspire un peu d'avoir une agriculture qui respecterait totalement le sol, on n'utilise pas de produits phytosanitaires, on utilise peu d'eau, tout ça. Est-ce que ça vous paraît réaliste?
Ben, moi, je suis plutôt convaincu qu'il faudrait améliorer toujours notre méthode traditionnelle, parce qu'après, il faut aussi approvisionner le marché. Puis le marché, tout le monde ne va pas pouvoir s'alimenter en produits d'autre qualité au standard biologique, par exemple. Et puis, il faut aussi bien se dire qu'en Suisse, on a quand même un taux d'auto-approvisionnement qui est relativement faible. On est autour des 50-60%. Donc, tout ce qu'on va pas faire ici, il sera fait à l'étranger. Et puis là, on maîtrisera pas forcément la manière dont ce sera produit. Donc, c'est aussi une manière d'être responsable, de pouvoir s'auto-approvisionner le plus possible et puis d'améliorer nos pratiques.
À l'étranger, comment ça se passe? Est-ce que, parce qu'on achète aussi beaucoup de pommes de terre qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'il y a les mêmes exigences au niveau des rotations?
Alors, pas forcément. Après, ils produisent pas mal par région et puis ils sont assez spécialisés par région. Mais après, ils font peut-être des rotations sur 2-3 ans. Mais après, c'est toujours le souci qualitatif qui va leur imposer un petit peu d'espacer la culture. Toutes les pommes de terre qu'on importe, en général, eux, ils font le tri à l'étranger. Ben, ils vont nous envoyer les plus belles patates chez nous, et puis ils vont garder les autres pour eux. Donc, ils vont faire une sélection. Et puis, comme on est un pays riche, on aura toujours les moyens d'acheter la plus belle patate de l'étranger.
On est devenu un peu fou à vouloir tous des belles patates rondes qui ont la bonne taille?
Un peu, oui, j'imagine. Mais après, c'est une histoire de marché. Et puis, comme on peut se le permettre, eh bien, on le fait, quoi.
(0) 58 236 236 0 pour réagir à ce reportage de Catherine Erard. Êtes-vous prêt à manger des pommes de terre couvertes de gale argentée si cela aide à préserver les sols? Les consommateurs ont-ils ce pouvoir? 0 (58 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Laurence Di Félix, Catherine Erard, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet.
Demain, nous développerons cette question évoquée aujourd'hui de la pression exercée sur les agriculteurs par les acheteurs et les conséquences sur les sols.
Il y a un fait qu'on observe, c'est chaque fois qu'on stresse l'agriculteur, c'est au détriment de son sol à la fin. Typiquement, livre-moi 10 salades pour demain matin. S'il pleut, le sol est foutu. Eh ben, l'agriculteur il va livrer les 10 cajots de salades, qu'importe le sol. Et quelque part, on devrait avoir une assurance quand on dit stop. C'est finalement pour ça que les sols, ils en souffrent, quoi. Donc là, je pense que le pire, c'est la culture maraîchère, où là, on va vers des catastrophes au niveau du sol.
Quand le marché abîme les champs, c'est un reportage à suivre demain dans Vacarme. Histoire vivante, c'est tout de suite au programme Justice et écran ou comment le cinéma parle du droit international. À demain.
Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante.
Cette semaine, Justice.